23 ans. Au début, on est sur un certain élan, bien sûr, quand on a une démarche avec le Seigneur. Puis après, on s'aperçoit que l'élan n'est jamais éternel. Il n'y a aucun élan que je connaisse et qui soit éternel, qui dure tout le temps. Donc, il y a besoin qu'on revienne un petit peu aux sources de ce qui a fait notre conversion, de ce qui a fait notre amour pour le Seigneur. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir comme on était quand on s'est converti, parce que on évolue, on change, on mûrit, et c'est normal. Mais il y a des choses auxquelles nous devons faire attention, des choses importantes que nous avons vécues lorsque nous avons connu le Seigneur, lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous lui avons donné notre cœur. Et ces choses, il faut que nous y revenions. Alors, quelles choses ? C'est mon propos de ce matin. Quelles sont les choses ? Moi, j'en ai relevé quatre. Hein. Vous pourrez relever peut-être d'autres, hein, évidemment. Moi, j'en ai relevé quatre auxquelles nous devons faire attention, de revenir régulièrement, de nous interroger sur ces choses que nous avons vécues lorsque nous sommes devenus chrétiens et que nous avons tendance à oublier, ces choses desquelles nous avons tendance à nous éloigner. Comment trouver ces quatre choses ? Bien, je vous propose une technique. Puisque c'est Paul qui nous donne conseil, on va demander à l'apôtre Paul ce matin comment est-ce qu'il s'est converti. Alors bien sûr, je n'ai pas invité l'apôtre Paul, parce que sinon moi je ne serais pas là, je serais un petit peu derrière. Mais on va voir dans la Bible comment lui-même nous raconte son témoignage. Et c'est intéressant, si un jour vous avez un témoignage à donner, alors moi j'en ai parlé en particulier avec Fred pour préparer le témoignage, son témoignage de baptême, mais pas qu'avec Fred, hein, on était deux. Et c'est un modèle de témoignage. Si un jour vous ne savez pas très bien comment témoigner, et que ce soit pour un baptême ou pour une autre occasion, moi je vous conseille de revoir ce chapitre 9 des Actes, puisqu'on va être dans le chapitre 9 des Actes, de revoir comment Paul donne son témoignage. Et vous avez un bon plan pour construire votre témoignage sur le modèle que Paul vous propose. Bien sûr, vous ne dites pas la même chose que Paul, hein. Vous racontez ce que vous avez vécu, mais le plan pourrait être tout à fait semblable. Alors ce matin, plutôt que de le lire moi-même complètement, ce chapitre 9, on va lire de 9, verset 1 au verset 22, je vous propose qu'on le fasse en groupe. Alors, il me faudrait des lecteurs. Alors, tu veux être la lectrice ? D'accord, mais il m'en faut quatre. Moi, je serai le lecteur, mais il me faut Jésus. Qui va faire le rôle de Jésus ? C'est toujours difficile, hein, parce qu'on se dit, mais on ne peut pas. Tu fais Jésus ? Alors, t'es version seconde. Ça marche. Tu peux venir au micro ? Ah, ben oui. Donc tu feras Jésus, quelqu'un pour faire également, moi je suis le lecteur. Jésus, toi tu veux faire quelqu'un ? Ah, tu prendras une grosse voix si tu peux. Quelqu'un d'autre pour faire l'apôtre Paul ? Eric ? Allez, prends le deuxième micro. Acte 9. Bon, tu vas bien voir quand Paul devra parler, c'est toi qui parleras. Et puis, il me reste Ananias. Sous ? Hein ? Non, ça ira. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour qu'il n'y ait pas trop de différence. Donc, moi, je suis le lecteur. Hein. Et on va lire Acte 9 à partir du verset 1. Donc c'est moi qui commence, et puis à un moment donné, c'est Jésus qui va intervenir le premier. Donc c'est moi qui commence. Hein. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait «
Saul, Saul, Pourquoi me persécutes-tu ?
Il répondit :
Qui es-tu, Seigneur ?
Et le Seigneur dit :
Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.
Tremblant et saisi d'effroi, il dit :
Qui ?
Paul.
C'est moi. Attends, on n'a pas la même version.
C'est pas grave.
Les hommes.
Seigneur.
Excuse-moi, je ne sais pas.
Tremblant et saisi d'effroi, il dit au verset 6.
Le verset 6.
Mais sinon, il peut lire
là. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là.
C'est bien, c'est bien. C'est bien. Lève-toi, entre dans la ville.
Seigneur.
Et on.
Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
Voilà. Et le Seigneur lui dit :
Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.
Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Le Seigneur.
Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Ah oui, pardon.
Non, Ananias. Le Seigneur lui dit. Il répondit.
Me voici, Seigneur.
Et le Seigneur lui dit.
Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue.
Ananias répondit :
Seigneur, j'ai ouï parler à plusieurs de cet homme. Combien de maux il a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a pouvoir de la part des principaux sacrificateurs, de lier tous ceux qui invoquent ton nom.
Mais le Seigneur lui dit :
Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant : Ananias.
Saoul, frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint.
Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient : N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ? Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Merci. Alors le témoignage de Paul, ce n'est pas au chapitre 9, hein. C'est quand Paul raconte cela, mais c'est au chapitre 19. Détail. Merci donc pour votre lecture. Alors je voudrais qu'on regarde, puisque là c'est le démarrage de la vie de chrétienne de Paul, c'est de la conversion de Paul dont il s'agit. Quelles sont les 4 choses que je vais récapituler, que Paul a vécu à sa conversion et dont il nous demande ensuite de persévérer maintenant. Alors, on va essayer de discuter un petit peu ensemble ce matin, si vous voulez. Moi, je vois 4 points qui apparaissent. Que fait Paul ici ? Qu'est-ce qui est important dans la démarche de Paul, dans la conversion qu'il a vécue et que nous venons de raconter dans ce chapitre 9 des Actes ? 1. Dis-moi. Ah, il voulait tuer des gens, oui. Mais il va quitter quelque chose. Qu'est-ce qu'il va quitter ? Qu'est-ce qu'il va devoir quitter ? Ces gens méchants qui l'accompagnaient.
Ses anciennes relations.
Et qui étaient ces relations ? des religieux juifs. Des gens haut placés, mais c'est des gens haut placés, mais pas n'importe quelle sorte de gens haut placés. C'était des hauts dignitaires juifs, des sacrificateurs. Autrement dit, c'était ceux qui étaient les chefs de la loi. Et ça, c'est le premier point que Paul va devoir quitter, que je voulais souligner. Paul va devoir quitter la loi. Lors de sa conversion, c'est la première chose qu'il doit faire. Il doit quitter la loi. Alors vous allez me dire, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on n'a pas de grand sacrificateur, on n'a pas de choses, on n'a pas une loi comme les lois juives, vous savez, qui étaient extrêmement précises pour tous les domaines de la vie, tous les jours, il fallait faire ceci, il ne fallait pas faire cela, etc. Mais qu'est-ce que ça représente, la loi, pour nous ? Qu'est-ce que ça nous dit à nous, mais aujourd'hui ? Il n'est plus question pour nous des ordonnances juives, puisque, autant que je sache, parmi nous, il n'y avait pas de pratiquant de la loi juive avant sa conversion. Donc, ce n'est pas la loi juive qu'on doit quitter, mais c'est la loi. La loi, c'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que la loi pour nous ? La loi à laquelle nous ne devons pas revenir. Voilà. Voilà, c'est ensemble de choses à faire ou à ne pas faire. Alors, c'est bien d'avoir des choses à faire et à ne pas faire, entendons-nous bien. Mais des choses à faire ou à ne pas faire pour mériter quelque chose. Des choses à faire ou à ne pas faire pour mériter la grâce de Dieu, pour mériter le salut, pour mériter quelque chose. Et c'est cela que nous devons absolument, que nous avons quitté, mais que nous devons continuer de quitter. Le problème de la loi, c'est quoi ? Le problème de la loi, c'est qu'il y a deux solutions quand vous voulez essayer de suivre la loi. Quand vous avez des préceptes, des choses à faire, des choses à ne pas faire, comme ça, il y a deux risques. Premier risque, c'est que vous y arriviez plus ou moins, que vous arriviez plus ou moins à suivre une certaine loi. Parce que si vous y arrivez, ça risque presque inévitablement de vous emmener à quelle attitude ? Quelle attitude de cœur ? À l'orgueil, effectivement. Si j'arrive à suivre la loi, si j'arrive à me tenir à peu près à carreau, à être quelqu'un de relativement bien, en m'y forçant, en essayant de suivre des préceptes, ou au contraire, en essayant de ne pas en suivre d'autres, je risque de tomber dans l'orgueil. Et puis, si je n'y arrive pas, je risque autre chose. Je risque le découragement. Donc, de vouloir suivre la loi, de vouloir suivre des préceptes pour plaire à Dieu, ça peut me mener soit à l'orgueil, soit alors au découragement. C'est du légalisme, effectivement. Et ça peut faire du mal aux autres. C'est ce que dit Colossiens 2, au verset 23. Il est parlé des préceptes qui indiquent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais qui en fait servent à satisfaire uniquement la chair. Et le but de Dieu, ce n'est pas ça. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous arrivions, les uns les autres, à suivre plus ou moins bien une certaine loi. Quel est le but de Dieu ? Le but de Dieu, c'est la perfection de ses enfants. Et le moyen de Dieu pour y arriver, c'est qu'il veut changer notre cœur. Je vais quand même le lire, un petit passage dans l'Ancien Testament qui exprime cela extrêmement bien et c'est une annonce dans l'Ancien Testament de ce que le Seigneur veut faire de la Nouvelle Alliance. Où cela ? Dans Ézéchiel 36, 28. Ouais, je le lis. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et pratiquiez mes lois. Ce que Dieu veut faire, c'est changer mon cœur pour que spontanément, naturellement, si je suis attaché à lui, j'arrive à suivre ses préceptes. Parce que bien entendu, hein, tu ne tueras point, tu convoiteras point, tu voleras point, tu tueras point, etc. Ce sont des préceptes qui sont toujours valables dans le Nouveau Testament. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on s'attache à faire, je dirais, du replâtrage du vieil homme. Nous avons commencé, quand nous nous sommes convertis, en général, nous avons senti que notre cœur avait changé, qu'il s'était passé quelque chose, qu'on n'avait plus les mêmes aspirations, qu'on avait d'autres idées, qu'on avait d'autres pensées, qu'on avait des actes qui étaient différents. Et puis, quelques temps plus tard, alors ça peut être lors de quelques mois ou de quelques années, ben on s'aperçoit que les vieilles ornières dans lesquelles nous étions, on y remarche souvent un petit peu volontiers. Et là, le Seigneur nous dit, mais essaie pas de faire du replâtrage. Essaie pas de paraître ce que tu n'es pas. Mais laisse-moi œuvrer dans ton cœur, parce que moi, je vais te donner un cœur nouveau pour que mes ordonnances, tu les pratiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Ce serait une erreur de croire ça, qu'il n'y a pas un effort de volonté à faire. Moi, je crois qu'il y a un réel effort de volonté à faire, mais il est un petit peu comme, j'ai trouvé cette image il y a longtemps dans un bon livre, quelqu'un qui disait, c'est un petit peu comme les coffrages. Qu'est-ce que c'est qu'un coffrage? Ceux qui bricolent ou ont bricolé, parce que ça se fait moins maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un coffrage? Un coffrage, c'est un ensemble de planches hein, que l'on met là, on veut faire un mur. On met les planches comme on le souhaite, comme on le veut, et puis ensuite, on appelle la toupie, on appelle la bétonnière, la bétonneuse, et on vient mettre le ciment entre les planches. Et moi, j'aime bien cette image qui disait, mettre les planches, c'est ton travail. Mettre le ciment, tu ne peux pas le faire. Mettre le ciment, c'est le travail de Dieu. Mais mettre les planches, comme tu en disant au Seigneur, voilà, Seigneur, moi maintenant, comment je voudrais marcher? Je mets les planches, je mets les circonstances pour pouvoir que Dieu puisse faire son travail. Il y a des circonstances à travailler, il y a des choses à faire pour que le Seigneur puisse travailler dans nos vies. Mais pour cela, eh bien, il est important que nous mettions les planches avec cette conviction que c'est lui qui va mettre ensuite, c'est bien lui qui va mettre le ciment. C'est un petit peu la même chose, je dirais, pour la vie chrétienne. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui est important, ce n'est pas de suivre la loi. L'important, ce n'est pas de faire un certain replâtrage du vieil homme, une tentative qui est souvent avortée d'améliorer le vieil homme. Mais l'important, c'est d'avoir un cœur nouveau et de laisser le Seigneur produire ce cœur nouveau en nous. Deuxième point, après avoir quitté la loi pour laisser Dieu transformer notre cœur, le deuxième point que Paul va devoir, le premier point, j'ai oublié Nadia, si tu veux bien. Le premier point, donc, quitter la loi. Le deuxième point, au verset 8, on dit que quoique ses yeux fussent ouverts, les yeux de Paul, il ne voyait rien. Et au verset 18, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Le deuxième point, il me montre que j'ai besoin de révélation. Souvent, on commence par la révélation. Et puis, j'ai une révélation quand je deviens chrétien. C'est quoi une révélation? Ce n'est pas quelque chose de mystique, quelque chose de bizarre, quelque chose d'étrange. C'est quelque chose d'étonnant. Avoir une révélation, c'est quand ça fait tilt. Avant, je n'avais pas compris, et maintenant, je sais. Je ne sais pas parce que mon intelligence me le dit seulement. Je ne critique pas, le rôle de l'intelligence est important. Mais la révélation, c'est de l'ordre c'est une révélation qui est intérieure, qui ne dépend pas de mon intellect. Hein. Il y a des gens, moi je vois bien autour de moi, je connais des gens extrêmement intelligents, et quand vous leur parlez de Dieu, on a l'impression qu'ils deviennent d'une stupidité assez étonnante. Et je parle de gens extrêmement intelligents, hein, d'un point de vue de l'intellect. On leur parle de Dieu, ils ne comprennent pas. Quand on leur parle des merveilles de la nature, qui parlent de la grandeur de Dieu, ça ne fait pas tilt. Vous pouvez leur expliquer, puis réexpliquer encore, puis argumenter encore. Il ne se produit pas toujours quelque chose. Ils ont besoin du tilt, ils ont besoin de révélation, quand ça fait tilt. Mais nous sommes un petit peu comme ça aussi. Quand je me convertis, j'ai des révélations. Alors j'ai des révélations sur quoi? Alors, j'ai des révélations sur la, 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 le cœur de Père de Dieu, j'ai des révélations sur le pardon, j'ai des révélations sur la vie éternelle, j'ai des révélations sur le fait que je deviens une habitation de Dieu en esprit, j'ai des révélations sur le sang versé par Jésus à la croix. Tout d'un coup, je comprends ces choses. Et puis, petit à petit, on a l'impression que la révélation est toujours là. Ce sont des choses auxquelles je crois, mais ça se promène encore, c'est remonté du cœur un petit peu dans l'intellect, et ça, c'est plus tellement dans le cœur. Et là, je crois qu'on a besoin, les uns et les autres, d'avoir une nouvelle révélation de ces choses. La révélation, elle n'est pas statique. Moi, je pense que dans une vie chrétienne normale, la révélation, elle doit s'approfondir. J'ai besoin que vous soyez chrétien depuis un an, 10 ans ou 30 ou plus, comme certains ici. Nous avons besoin, après avoir quitté la loi, nous avons besoin encore aujourd'hui de révélation. Cette pensée, cette conviction de ce que Christ a fait pour nous sur la croix, nous avons besoin qu'elle grandisse, et pas dans notre intellect seulement, nous avons besoin que ça grandisse dans notre cœur. Et nous avons tous à progresser dans ce domaine-là. J'ai vu des chrétiens en Chine, au temps de la persécution, qui au moment de la Sainte Cène, pleuraient tellement, ils étaient bouleversés, pas parce qu'ils avaient des émotions seulement, c'était des émotions qui n'étaient pas simplement au niveau de la superficialité de leurs sentiments, mais c'est parce qu'ils avaient une révélation nouvelle au moment de la scène de ce que Christ avait fait pour eux. Ça m'arrive de temps en temps, en présentant la scène, de réaliser ce que je suis en train de faire. Révélation, pas l'intellect. Et à ces moments-là, mon Dieu, je me dis, qu'est-ce que je fais là? En présentant la scène ou en l'apprenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Seigneur, c'est extraordinaire. C'est Sou qui présente la scène tout à l'heure. Je ne veux pas prendre ta place. Mais je déborde un tout petit peu, si je peux me permettre. C'est extraordinaire parce que tout d'un coup, je réalise tout à nouveau ce que Christ a fait pour moi. Et ça, croyez-moi, je crois qu'on a vraiment besoin d'être renouvelé dans la révélation. Parce que sinon, le temps nous use, le temps use l'intellect, le temps use les sentiments, le temps use notre énergie. Et la révélation, c'est un petit peu comme pour rappeler une autre image, c'est un petit peu comme un magnifique tableau avec plein de couleurs. Moi, j'aime bien quand c'est bariolé, qu'il y a des couleurs partout comme ça. Et c'est comme si les couleurs pâlissaient. Le bleu devient moins bleu, le jaune, c'est moins pétant, comme on dit. Et c'est comme un tableau qui avait plein de couleurs magnifiques, qui tout d'un coup deviendrait beaucoup plus terne. On enlèverait les couleurs, un petit peu les couleurs, je ne sais pas comment on dit, pour les gens qui font du dessin. Mais c'est comme si les couleurs devenaient beaucoup plus ternes. Pâlissent, les couleurs qui pâlissent. On a besoin que ça redevienne pétant. Et tout d'un coup, on réalise tout à nouveau. Une autre image pour expliquer ce qu'est la révélation, moi, une image qui me parle personnellement, c'est l'image de la carte et de la réalité. Si vous me parlez de Mouchard et que vous me montrez Mouchard sur la carte, je sais où c'est. J'ai compris que pour aller à Mouchard, il fallait, partant de Évan, passer par Arquesnan, par Cramant, etc., avant d'arriver à Mouchard. J'ai compris intellectuellement où était Mouchard. Mais le jour où j'arrive à Mouchard, que je traverse les rues de Mouchard, que je rentre dans la maison de l'espérance à Mouchard, là, je sais vraiment ce qu'est Mouchard. Entre la révélation d'ordre intellectuel, la compréhension intellectuelle et la révélation du cœur, la différence est un petit peu la même. Comprendre intellectuellement, c'est voir sur la carte où se situe le lieu. On comprend. Avoir une révélation de cœur, c'est être réellement dans le lieu, voir, sentir, toucher, vivre dans le lieu, dont la carte me parlait. La Bible, c'est pareil. La Bible, ça ne sert à rien. Je fais exprès, hein, je suis en train de... La Bible, ça ne sert à rien si je n'ai pas de révélation. La Bible, si je n'ai pas une révélation intérieure, c'est une lettre morte. J'ai besoin, pour comprendre ce que dit la Bible, il y a des théologiens qui ne croient pas en Dieu, hein, de haut niveau. Des gens extrêmement intelligents, des théologiens de haut niveau qui avouent qu'ils ne croient pas en Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent très bien la carte. Très bonne carte, hein, par ailleurs. Très bonne carte, mais ils n'ont pas reçu la révélation. Alors qu'il y a des gens qui ont des capacités intellectuelles, comme vous et moi, de l'ordre de la moyenne, quoi. Et puis, ils ont une révélation de ce qui se passe dans la Bible. Ils ont une révélation des événements qui sont racontés là. Et là, ça fait titre. Et ça, j'insiste un tout petit peu là-dessus ce matin, nous avons besoin, absolument besoin, d'être renouvelés, de quitter la loi, mais nous avons besoin d'avoir une révélation de la personne et de l'œuvre de Jésus. Je parle à des frères et sœurs, hein, j'en ai bien conscience. Je ne fais pas d'évangélisation. Ce serait l'évangélisation, je le dirais, mais entre nous, je crois qu'on peut se le dire également. On a besoin d'aller plus loin. Si on ne va pas plus loin, on stagne. Si on ne va pas plus loin, c'est les couleurs du tableau qui pâlissent. Si on ne va pas plus loin, on se retrouve avec une lettre morte sous le bras, à venir au culte dimanche matin. Nous avons besoin de plus de révélations. Que le Seigneur nous l'accorde. Troisième point, merci pour la dia. Troisième point, acte 9, toujours bien sûr, verset 8, on prit Paul par la main et on le conduisit jusqu'à Damas. Et au verset 22, il se fortifiait de plus en plus. Autre chose qui est importante, nous avons été restaurés à notre conversion. Moi, je sais qu'à ma conversion, j'ai vécu une certaine restauration intérieure. Hein, il y avait des façons de penser, des façons de voir les choses, des choses que je faisais avant, que tout d'un coup, quand je suis devenu chrétien, j'ai arrêté de penser comme ça, j'ai arrêté de voir les choses de cette façon-là, j'ai arrêté de pratiquer certaines choses, mais j'ai besoin de continuer à me laisser restaurer. Comment se laisser restaurer ? Il y a la relation d'aide, il y a le travail que Dieu fait, il y a un travail invisible même, hein, que Dieu fait sans qu'on s'en rende compte, heureusement d'ailleurs. Il y a un travail qui peut être fait à par un accompagnement avec quelqu'un, bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un qui est suffisamment qui soit formé ou qui ait une psychologie qui soit pour lui-même suffisamment stable pour pouvoir aider les autres. Personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, il me semble, et je crois que j'ai déjà dit, ceux qui me connaissent, vous allez deviner. Pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le parler en langue. Quand je suis devenu chrétien, tout de suite, j'ai parlé en langue et tout de suite, j'ai été envoyé à l'armée. J'ai fait mon service militaire. Et au service militaire, j'avais un petit peu de mal. Et pendant un an, je n'avais pas de réunion chrétienne, ou très peu. Pendant un an, j'ai parlé en langue, pas tout le temps, mais c'était vraiment, pas en continu, mais sans ouvrir la bouche, hein. Évidemment, je ne chantais pas en langue dans les chambrées parce qu'il m'aurait peut-être congédié. Mais ça m'a beaucoup... J'ai vécu des moments simplement où, en parlant en langue, je savais qu'à l'intérieur, il y avait un travail qui se faisait. Ça m'est arrivé un jour dans une réunion, je parlais en langue, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je ne savais même pas ce que le Seigneur guérissait en moi, mais je savais qu'il le faisait. J'ai compris qu'il y avait un travail de guérison qui était en train de se faire. Et je ne savais pas dans quel domaine, je n'avais absolument aucune idée. Mais c'était extraordinaire, et de parler en langue, moi je vous encourage à vivre ce don, parce que c'est un don qui est là pour louer Dieu, on pourra en parler longuement du parler en langue, hein, mais qui est là pour louer Dieu, mais c'est aussi un don pour que nous soyons reconstruits. Quand je parle en langue, le Saint-Esprit me reconstruit, le Saint-Esprit me restaure. Donc je vous encourage en particulier dans ce don. Sinon, bien entendu, on peut aller voir un frère, on peut aller voir une sœur, puis parler de ses difficultés. La quatrième chose, alors celle-là, elle m'intéresse bien, acte 9, verset 6, « Seigneur, dit Paul, que veux-tu que je fasse ?» Paul, tout d'un coup, il était ce qu'il était, cet homme-là, c'était un terroriste, hein, c'était un homme méchant, un terroriste, mais quand Dieu le touche, il comprend de qui il s'agit, c'est Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il est tout de suite soumis à Dieu. Que veux-tu que je fasse ? tout de suite, il rentre dans l'obéissance par rapport à Dieu. Et ça, c'est quelque chose encore, quand on se convertit, que l'on vit, mais c'est quelque chose dans lequel nous avons besoin d'être renouvelés. Parce que, croyez-moi, l'esprit d'indépendance, l'esprit de « je fais ce que je veux quand je veux », etc., c'est quelque chose qui revient quand même assez facilement et régulièrement dans nos vies. Le Seigneur dit « non, non, lui c'est le chef, et moi je suis le... nous sommes, je suis le serviteur et je dois apprendre à obéir ». Il y a un enjeu là qui est très très important. Il n'y a pas longtemps, au lycée, j'écoutais une vieille dame qui a 92 ans et qui est une ancienne déportée. Et elle a donné son témoignage de déportée pendant 2h30 devant les élèves. 2h30 à 92 ans. Moi, j'en revenais pas. Et elle n'est pas chrétienne. Hein. C'est un témoignage de vie qui vaut ce qu'il vaut, qui est intéressant. Mais ce n'est pas un témoignage de foi. Ce n'est pas Corrie ten Boom. C'est simplement une dame qui a vécu cela. Qui s'en est sortie. Elle a vécu des choses qui étaient horribles. Même, moi, je connais un petit peu quand même, j'ai déjà entendu parler de ces choses, mais là, j'étais extrêmement frappé, étonné, puis les élèves, ils prennent des... Ça les sonne un petit peu comme ça aussi, et c'est bien. Mais je vais vous dire ce qui m'a le plus frappé dans le témoignage de cette femme. C'est à la fin. À la fin, quand les soldats anglais sont arrivés pour les délivrer, donc ces soldats anglais sont arrivés, c'est des soldats anglais qui ont délivré le camp dans lequel cette femme était. Hein. Il se trouve que c'était comme ça. Et ces soldats, quand ils sont arrivés, ils pleuraient. Ils ont compris, ils ont vu. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient trouver hein, quand ils sont arrivés dans le camp. Et c'est en y arrivant que tout d'un coup, ils ont compris, ils ont vu les fosses communes, ils ont vu les chambres à gaz, ils ont compris. Et ces jeunes hommes, qui étaient pourtant des gens, je pense, équilibrés, ils ont craqué, ils pleuraient. Et ils ont dit la chose suivante, quand on était en Angleterre, puis qu'on nous disait, il va falloir y aller en France, en Allemagne, on ne comprenait pas, on disait, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est à 1000 km peut-être de chez nous, et on ne comprend pas du tout ce qu'on va faire là-bas. Et quand ils pleuraient dans ce camp de concentration, ils disaient, maintenant... On sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on est venu, on a compris. Avant, on ne savait pas. Maintenant, on sait pourquoi on est là. Et on atteste que nous ne sommes pas là pour rien et qu'on a bien fait de venir et qu'il fallait qu'on vienne. Alors, je ne dis pas ça pour parler de la guerre ou de justifier des choses. Ou... Ce n'est pas ça, mais c'est par rapport à nous. Quand on voit les malheurs du monde, quand on réalise... les malheurs qui sont autour de nous, tous ces gens qui sont malades, tous ces gens qui crèvent de, littéralement ou qui crèvent de manque d'amour, ou qui crèvent parce qu'ils ne sont pas bien. Moi, je dis, on est un petit peu comme les soldats anglais. Quand je suis chez moi, tranquille, le soir, à regarder la télé, pourquoi, Seigneur, est-ce que j'irai? Pourquoi est-ce qu'on irait? Tu peux faire toi. Et puis, quand on est confronté au problème des gens, et moi, je suis très content... je suis content d'exercer une profession où je vois des gens, où je vois des élèves, où je vois des gens qui souffrent. Enfin, je suis pas content du fait qu'ils souffrent, hein. Mais je pense que c'est juste de voir ces gens qui sont à l'extérieur, qui sont pas au chaud dans l'église, mais qui souffrent à l'extérieur. À ce moment-là, on se dit oui, là, je sais, je comprends pourquoi je suis au lycée. Je comprends. Dans mon cas, je comprends pourquoi je suis à Super U. Je comprends pourquoi je travaille chez Renault. Je comprends pourquoi. Parce que sinon, je ne comprenais pas. Mais maintenant que j'y suis, c'est Seigneur, si tu me montres les souffrances de ces gens, là, je comprends. J'y suis, c'est pour annoncer ce que tu as fait, annoncer l'Évangile, partager l'Évangile. Et ça, je crois que c'est ce que Paul a vécu. Hein. Persévérer dans l'obéissance à aller, parce que Paul, il va être envoyé. Il est écrit que quand Jésus parle à Ananias, il lui dit « C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. » Et il va beaucoup souffrir, Paul, pour cela. Et ça, c'est quelque chose, je crois, dans lequel on a besoin d'être renouvelé. L'amour, pour le dire autrement, persévérer dans l'obéissance à aller prêcher l'Évangile chez les perdus. Quand on n'est pas dedans... Quand on est dans l'église, quand on est au chaud, comme nous le sommes ce matin, on se dit, oh, pourquoi? Mais quand on est confronté. Je pense que là, on comprend que c'est important d'obéir à cet ordre de Dieu, comme Paul l'a fait, aller pour annoncer l'Évangile. On est un petit peu comme ces gens qui arrivent, qui étaient tranquilles en Angleterre, dans l'église, et puis qu'arrivent ces jeunes soldats qui arrivent dans le camp de concentration à l'extérieur, où là, on voit des choses qui sont quand même parfois un petit peu difficiles. Voilà ce dont je voulais vous parler ce matin, des quatre points dans lesquels je pense qu'il faut que nous persévérions, que nous avons vécues à la conversion. Quitter la loi, persévérer et approfondir notre révélation, accepter d'être soigné et puis accepter d'obéir en étant envoyé également. Quatre choses dans lesquelles nous avons besoin de persévérer, dans lesquelles nous avons besoin que le Seigneur nous donne un nouvel élan. Parce que l'élan n'est jamais éternel. Il faut veiller, il faut faire attention. Il faut demander simplement. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas une bonne expression. Avec le Seigneur, il faut demander. Seigneur, j'ai pas. Moi, la révélation, c'est un petit peu terne pour le moment. Puis il est perdu. Écoute, Seigneur, moi, je suis bien tranquille chez moi. Et puis, ça m'importe. Je constate que j'ai perdu cette... Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il dit, mais c'est normal. Il ne va même pas me le reprocher. Il va dire, mais c'est normal. Simplement, ce que j'attends, c'est que tu reconnaisses que tu en es là et que tu demandes à aller plus loin. Tu reconnais que tu es revenu à la loi. Tu reconnais que la révélation, tu l'as un petit peu perdue. Tu reconnais que tu n'as pas envie d'évangéliser. Ce n'est pas un problème, c'est normal. Nous sommes des hommes et des femmes et nous ne sommes pas portés naturellement vers les choses spirituelles. Naturellement, nous ne sommes pas portés vers la spiritualité. Ce n'est pas naturel. Par contre, nous avons cette capacité de reconnaître que nous ne sommes pas spirituels. Comprenez ce que je veux dire quand je dis ça, hein? Et le reconnaissant, de demander à Dieu de nous emmener plus loin, d'être renouvelés. On peut prier un instant? Seigneur, tu viens derrière nous et tu nous proposes de nous pousser, de nous redonner un nouvel élan. Et tu nous poses cette question, est-ce que tu veux que je te pousse? Est-ce que tu veux aller plus loin? Est-ce que tu veux être renouvelé dans ces choses dont nous avons parlé ce matin? Seigneur, moi je te réponds oui. Je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas par quel moyen. Mais Seigneur, la vie chrétienne, je sais que ce n'est pas statique, que tu veux nous emmener tous plus loin. Je te demande de le faire, Seigneur. Amen. Je vous encourage encore pendant quelques instants à identifier peut-être lequel de ces quatre points dont nous avons parlé ce matin et dans lequel vous auriez besoin d'être renouvelé et à dire au Seigneur, je reconnais que c'est ce point-là pour moi qui pose souci, qui pose problème. Et je te demande de me renouveler. Alors, vous pouvez faire cette demande à haute voix ou dans votre cœur. Et qu'on puisse les uns les autres ce matin avoir cette démarche d'identifier le point et de le confier au Seigneur en lui demandant de nous emmener plus loin. À voix basse, à voix haute, dans votre cœur, mais c'est important qu'on fasse cette démarche.